Bonjour Père Baptiste Pochulu.
Bonjour Anne-Rose.
Merci d'être ici au micro de Radio Présence, vous qui êtes responsable de la liturgie au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, et vous nous aidez à vivre pleinement ce temps liturgique de l'Avent. Ça arrive, ça approche, la naissance du Christ est toute proche. La semaine dernière, nous avons fêté le dimanche de la joie, et aujourd'hui, quatrième dimanche du temps de l'Avent, nous sommes dans la semaine préparatoire. Nous avons changé de préface, ces fameuses préfaces dont vous nous parliez lors du deuxième dimanche de l'Avent. Ça y est, là, on est dans la semaine de tous les changements, de toutes les petites bousculades avant le moment tant attendu.
Effectivement, depuis le 17 décembre, dans la préface, peut-être pour se le redire, c'est cette grande prière qui fait mémoire des merveilles que le Seigneur a fait pour nous et qui nous prépare à entrer dans la prière eucharistique au cours de laquelle vont être consacrés le pain et le vin encore et sans du Christ. Donc on utilise cette deuxième préface du temps de l'Avent qui rappelle qu'il y a une attente messianique dans le peuple hébreu, que cette attente messianique, elle s'accomplit avec la naissance du Sauveur. Et donc, d'une manière très calendaire, du 17 décembre au 24 décembre au matin, c'est une semaine de préparation à ce qui va être vécu dans la nuit du 24 au 25.
Alors, est-ce qu'on peut peut-être regarder là encore la parole de Dieu, les Écritures, qu'est-ce que la parole nous dit? Comment on peut trouver l'équilibre pour prendre le temps de s'y plonger dans cette parole de Dieu, puiser tout ce qu'il y a à y puiser, tout en étant quand même dans l'effervescence à laquelle on ne peut pas échapper?
Effectivement, en 8 jours, je m'arrête surtout sur les évangiles qui sont proposés pendant cette semaine préparatoire, mais en 8 jours, on va revivre quasiment une année ou un an et demi avant la naissance du Christ. Voilà, s'il fallait faire ce parallèle avec...
Donc c'est une approche historique, presque.
Voilà, c'est ça.
Une préparation historique.
On peut avoir d'une certaine manière un peu ce regard-là, de se dire effectivement, chaque jour, on est invité à se replonger dans un passage de l'Écriture qui nous replonge lui-même dans la préparation très proche de l'accomplissement de l'attente messianique du peuple hébreu. Et donc là, on retrouve deux évangélistes, Matthieu pour le 17 décembre et le 18 décembre, c'est ce qu'on les a déjà entendus, avec la généalogie de Jésus dans l'évangile selon saint Matthieu. Donc voilà, les fameuses 14 générations.
Pardon, je vous coupe, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert de nous redire toute cette généalogie?
De pouvoir être pleinement conscient que cette attente messianique, justement, s'il fallait faire en plus le lien avec la nativité, avec Noël, cette attente-là, elle s'inscrit dans toute l'histoire sainte qui a précédé le Christ et dont le Christ est le plein accomplissement et la réalisation la plus parfaite. Donc effectivement, cette généalogie qui peut être un peu longue, en plus avec des noms qui ne sont pas très familiers ni à nos oreilles ni à nos bouches,
mais il fallait passer par là pour savoir dans quel chemin on s'inscrit.
Exactement, pour pouvoir bien comprendre que le Christ s'inscrit dans une lignée, et en plus c'est la lignée davidique, donc la lignée des messies du Seigneur, donc celui qui est oint, donc toute cette dimension du messie, du Christ, il est l'accomplissement de la promesse de Dieu. Donc voilà pourquoi cette longue généalogie avec cette succession de 14 générations à plusieurs reprises au début de l'évangile selon saint Matthieu. Et puis ensuite, la présence de cet homme très discret, qui est quand même là, et heureusement qu'il a été là, qui est saint Joseph. Donc le 18 décembre, ce qu'on a entendu, ce fameux songe de Joseph, un homme juste, qui accepte de prendre chez lui Marie. Donc voilà.
Et ça, c'est nécessaire de se redire ça quelques jours avant. Alors, il faut quand même peut-être mettre en parallèle la première semaine, le premier dimanche de l'Avent. On a parlé de l'aspect plus logistique, notamment. On parlait de la crèche. Finalement, on voit que l'écriture et les passages de la Bible dont vous nous parlez aujourd'hui, si on les met en parallèle avec tout ce qu'on a mis en place d'un point de vue plus pratique, la crèche, les cierges, les bougies, etc., finalement, ça se répond, quoi.
Exactement. Ça se répond complètement, et puis on comprend bien pourquoi, mais finalement, si on reprend juste cette belle symbolique des bougies, ben voilà, là ça y est, on
allume la quatrième aujourd'hui.
En plus, en ce quatrième dimanche de l'Avent, on l'allume, on est en plein milieu de cette semaine préparatoire, et donc voilà, tout ce que peut nous rappeler la crèche, ben voilà, là, à travers les évangiles de cette semaine préparatoire, on l'entend, et grâce à la crèche, on le touche du doigt, oui. j'ai envie de dire. Et puis, voilà, pour reprendre aussi, entre le 19 et le 24 au matin, eh bien, on va entendre le premier chapitre de l'évangile selon Saint-Luc dans son entièreté, en reprenant l'annonce de la venue du Baptiste, l'annonciation à la Vierge Marie, la visitation, le Magnificat, la naissance de Jean-Baptiste et juste dans la messe du 24 au matin, le cantique de Zacharie que l'Église nous invite à chanter tous les matins au Lode, béni soit Dieu, le sauveur de son peuple. Donc, effectivement, cette semaine préparatoire qui reprend quelque chose qui s'est étalé dans le temps, mais Dieu fait son œuvre dans le temps, qui est comme un condensé de l'histoire sainte, de l'histoire de notre humanité, de l'histoire d'une attente qui, dans la nuit du 24 au 25, va être pleinement accomplie.
Je voudrais qu'on ait un mot pour vous qui êtes responsable de la liturgie, et c'est vraiment la manière dont vous nous avez aidé tout au long de ce temps de l'Avent. Je voudrais qu'on ait peut-être un mot pour les personnes qui, pour des raisons ou d'autres, n'ont pas pu se rendre à la messe chaque dimanche du temps de l'Avent. Notamment les personnes malades qui ne peuvent pas se déplacer, les personnes qui sont aussi détenues. Il y a un aspect de cette préparation auquel elles n'ont pas pu toucher. Mais la parole de Dieu est quand même là pour elles.
Oui, la parole de Dieu, aujourd'hui, elle nous rejoint et on y a accès de mille manières. Effectivement, un abonnement à Parole et Prière ou Prions en Église ou Magnificat.
C'est-à-dire que pendant le temps de l'Avent, on a quand même l'impression que c'est plus facile quand on est englobé dans la prière de toute la communauté paroissiale et que, entre la couleur liturgique, la crèche, les bougies dont nous parlons depuis 4 semaines, tout ça nous emporte un petit peu. Ça n'est pas accessible tout le temps à tout le monde.
Mais du coup, pour ceux qui nous écoutent ou pour ceux qui sont obligés de pouvoir suivre la liturgie à travers aussi d'autres moyens, que ce soit la radio ou des chaînes de télévision, de se dire qu'on n'est pas seul. On n'est pas seul. La communauté, bien sûr, elle se rassemble le dimanche en un endroit bien précis pour pouvoir rendre le culte à Dieu et faire mémoire des merveilles. Mais dans le souci que doit avoir une communauté, c'est également ce souci de ceux qui sont absents. Donc une chose qui doit être bien présente à nos esprits, et peut-être pour ceux qui sont plus loin, plus empêchés, tous ces fidèles, on n'est jamais seul, et donc de pouvoir s'associer à ce temps d'attente, de vigilance, de préparation, de veille qu'est le temps de l'Avent, qui va bientôt maintenant en plus
s'achever.
Se dénouer dans la joie de Noël, se dire que la communauté aussi, elle se vit malgré une forme de distance et parce que on s'associe à la réalité qu'est l'Église, qui n'a pas de limites et pas de frontières, on s'associe à cette réalité-là par une vie de prière.
Merci beaucoup, Père Baptiste Pochelu. On vous souhaite un bon et saint Noël. On vous retrouve la semaine prochaine. Nous allons décrypter l'octave de Noël avec vous. À la semaine prochaine.
Merci Anne-Rose. Joyeux Noël à vous aussi.